écoutez Radio France Internationale, il est 7h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
RFI Matin, ça commence avec le journal. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
Pâques solidaire, Pâques solitaire au Proche-Orient.
Pour des chrétiens pris dans l'étau de la guerre, des chrétiens isolés et filtrés. Ils ne sont que quelques-uns à avoir pu se rendre à Jérusalem depuis la Cisjordanie occupée, hier pour la cérémonie du feu sacré. Pour les autres, restés à Ramallah par exemple, cette Pâque avait une saveur très particulière. Gaza était dans toutes leurs prières. Reportage à suivre d'Amira Sulem.
Pâques sous les bombes à Gaza et trêve Pascal en Ukraine.
Décrété hier soir par la Russie, un cessez-le-feu loin d'être respecté. Selon Volodymyr Zelensky, plusieurs attaques de drones ont été recensées dans le pays. Une trêve loin de susciter l'enthousiasme chez les Ukrainiens. Un deuxième round qui en appelle un troisième. L'Iran et les États-Unis avaient rendez-vous hier à Rome. De très bons progrès salués de part et d'autre. À confirmer la semaine prochaine à Oman. Et puis une circulaire de la honte dénonce ce parti de gauche et ONG en France, une directive interne de certaines préfectures qui appelle un fichage d'immigrés en situation pourtant régulière, parfois sur la base de simples suspicions. Et puis enfin, c'est la fête à Babi, Abidjan, qui dit adieu au Femua. Et bonjour à Pakinamoué, fête traditionnelle célébrant la communauté Hadjan.
Pâques en Terre Sainte et sous tension.
Pour des chrétiens qui tentent de garder le feu sacré, les fidèles se sont rendus à l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem où une flamme a été allumée symbolisant la résurrection du Christ. Des célébrations perturbées par les mesures de sécurité, les autorités israéliennes ont limité l'accès à Jérusalem des chrétiens de Cisjordanie occupée. Territoire qui vit au rythme des incursions de l'armée israélienne. Beaucoup de croyants sont restés à Ramallah où les célébrations ont débuté là aussi dans un contexte forcément très particulier. Amira Sulem s'est mêlée aux fidèles de l'église grecque orthodoxe. Reportage.
En Cisjordanie, l'occupation gâche même les moments de fête. Enfants, grands-parents, jeunes couples très apprêtés sous un soleil de plomb, tous attendent l'arrivée du feu dit sacré en provenance du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Plus de 2 heures de retard déjà. Le prêtre prend la parole.
Le transport de la flamme a du retard à cause des checkpoints sécuritaires. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'être patient. Soyez patient et que ceux qui veulent écouter les prières en attendant soient les bienvenus.
Dans la cour, les scouts défilent et hissent le drapeau palestinien. Georges, Elias et leurs amis ont entre 14 et 16 ans. De grands sourires et une certaine gravité.
Tous les ans, on a l'habitude de recevoir ce flambeau de Jérusalem et d'entamer une procession festive dans le centre-ville de Ramallah avec tous les scouts. Mais cette année, toutes les festivités ont été annulées à cause de ce qui arrive à nos frères à Gaza et à cause de la guerre.
C'est si triste ce qui se passe à Gaza. C'est notre peuple, on a le même sang qu'eux. Les gens à Gaza sont nos frères. Je n'arrive même pas à parler d'eux tellement c'est dur.
Dans cette église orthodoxe qui jouxte une mosquée, la flamme de Jérusalem arrive au feu. Avec elle, quelques moments de répit dans le fracas de la guerre. Amira Sulem, Ramallah, RFI.
La guerre en Cisjordanie et à Gaza, toujours sous les bombes, la défense civile palestinienne qui dresse un bilan terrible de 54 morts ce samedi lors de raids de l'armée de l'État hébreu.
Et les familles d'otages réclament, elles, un accord au plus vite.
Et ce même si cela doit passer par la fin des combats. Benjamin Netanyahou n'a aucun plan, a réagi le collectif du Forum des familles d'otages après le discours du Premier ministre israélien hier soir qui les a accusés de faire le jeu du Hamas. Benjamin Netanyahou a assuré qu'il ne céderait pas aux diktats du mouvement islamiste palestinien. Le Hamas qui s'était dit opposé ce jeudi à un accord partiel de trêve à Gaza et qui s'est dit prêt à libérer tous les otages dans le cadre d'un accord global pour mettre fin à la guerre. Accord qui comprendrait un retrait total des troupes israéliennes.
Une trêve en Ukraine, mais une trêve bafouée.
Comme dénoncé par Volodymyr Zelensky, ce cessez-le-feu décrété unilatéralement par la Russie hier soir, 18h heure locale, qui doit se prolonger jusqu'à minuit, mais le président ukrainien dénonce déjà des violations et pointe des assauts russes sur plusieurs secteurs du front. Une alerte anti-aérienne a retenti à Kiev et le gouverneur de la région de Kherson fait part d'attaques de drones. Une trêve pascale qui n'a pas suscité l'enthousiasme des Ukrainiens après plusieurs jours d'attaques russes très meurtrières comme à Soumy ou à Kharkiv. Correspondance à Kiev, Emmanuel Chaz.
L'annonce de Vladimir Poutine n'a ni surpris ni enthousiasmé ici en Ukraine. Depuis le 11 mars, c'est la proposition américaine d'un cessez-le-feu temporaire de 30 jours, acceptée par Kiev mais refusée par Moscou, restée inflexible sur ses conditions pour toute négociation vers la paix. Les Ukrainiens ont été bombardés quotidiennement par la Russie et n'ont vu aucun signe d'apaisement côté russe. Cette trêve de Pâques est donc vue avec scepticisme ici, d'autant qu'elle semble déjà ne pas être respectée. Au-dessus de la capitale ukrainienne, les sirènes ont déjà retenti plusieurs fois depuis l'annonce du président russe. Un drone de reconnaissance a notamment survolé le centre-ville après l'entrée en vigueur théorique du cessez-le-feu. Et sur le front, l'artillerie et les drones continuent d'opérer selon plusieurs soldats ukrainiens et selon le président Zelensky, qui précise que le cessez-le-feu ne semble pas s'appliquer non plus dans les régions russes de Koursk et Belgorod, où les troupes ukrainiennes ont effectué des incursions pour tenter de contrôler des territoires qui leur serviraient de monnaie d'échange lors d'éventuelles négociations. Si Kiev a déclaré être prête à un cessez-le-feu au-delà de la trêve pascale, si tant est que Poutine respecte cette parole, côté ukrainien, il n'y a aucune confiance envers la Russie, dont les armes ne se sont pas encore tues. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et cette trêve très précaire entre la Russie et l'Ukraine qui a aussi permis un grand échange de prisonniers entre les deux pays, 246 de chaque côté, notamment des soldats blessés nécessitant des soins d'urgence.
Des négociations en progrès saluées par Washington et Téhéran.
De très bons progrès même selon Donald Trump après ce deuxième cycle de pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. Négociations indirectes hier à Rome auxquelles ont participé l'émissaire américain Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. On retrouve en direct de Téhéran, notre correspondant en Iran, Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh.
Bonjour.
Siavosh, la réunion dans la capitale italienne hier a visiblement satisfait tout le monde.
Absolument. Pour le ministre iranien des Affaires étrangères, le climat relativement positif des discussions a permis d'avancer sur les principes et l'objectif d'un accord. Et on peut être, a-t-il dit, prudemment optimiste. En attendant la nouvelle réunion de samedi prochain à Oman, les experts des deux pays doivent se retrouver dans cette capitale pour des discussions techniques. Téhéran a insisté sur le maintien de ses acquis nucléaires, un terme assez vague qui ne permet pas de savoir si l'Iran pourra continuer à faire de l'enrichissement à 60%, comme c'est le cas actuellement, ou bien il devra baisser son niveau à moins de 4%. L'enrichissement à 60% est proche du seuil des 90% qui peut être utilisé pour la construction de l'arme atomique. Mais l'Iran s'est dit prêt à donner des garanties sur le caractère pacifique de son programme nucléaire. Selon la délégation iranienne, aucun autre sujet, notamment son programme balistique, n'a été évoqué par la partie américaine. Les responsables américains ont également fait état de bons progrès, sans donner d'autres détails. Il y a quelques jours, pourtant, Steve Witkoff, qui dirige la délégation américaine, avait affirmé, tout comme d'autres responsables américains, que l'Iran devait totalement démanteler son programme nucléaire.
Et merci beaucoup, Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran sur RFI. Un troisième round de négociations est donc prévu samedi prochain à Mascate, la capitale d'Oman.
Des milliers d'Américains dans les rues des États-Unis ce samedi.
Pour dénoncer la tyrannie de Donald Trump, selon les pancartes brandies lors de plus de 400 rassemblements à travers tout le pays. Et dans le viseur des manifestants, les mesures anti-immigration de la Maison-Blanche. Alors que la Cour suprême américaine vient justement de suspendre les expulsions de migrants vénézuéliens. Des Vénézuéliens soupçonnés d'appartenir à un gang criminel. Une décision de la Cour suprême qui constitue un véritable tournant, estime Anne Desine. Elle est spécialiste des États-Unis et autrice du livre « Les juges contre l'Amérique ».
Jusqu'ici, la Cour suprême ne voulait pas pousser au conflit frontal. Là, on se rend compte que pour la première fois, la Cour suprême rend une décision qui devrait marquer un arrêt dans ce que fait Donald Trump. Et donc, comme autour de Trump, il y a tout un tas de gens qui disent « les cours ne peuvent pas vous empêcher de faire votre politique », on s'achemine justement vers ce conflit frontal. Dans l'ordre constitutionnel normal, les présidents se sont toujours pliés à la décision de la Cour. Mais compte tenu des gens dont Trump s'est entouré, qui sont quand même des extrémistes, il peut très bien dire « c'est mon rôle, la politique étrangère, je considère que le pays est envahi par les immigrants, donc je ne me plie pas à la décision de la Cour ». Cela étant, on ne saura vraiment où nous en sommes que lorsqu'il y aura une décision sur le fond rendue par la Cour suprême. Si sur le fond, la Cour suprême dit « vous ne pouvez pas les expulser en fonction et en vertu de la loi sur les ennemis intérieurs » et que l'administration continue, ça sera une violation flagrante. Et là, nous sommes pratiquement à la crise constitutionnelle.
Des propos recueillis par Camille Salcedo-Ruiz.
RFI 7h09 à Paris, des circulaires qui s'apparentent à du fichage en France.
Comme révélé par nos confrères des Jours et du Parisien, des circulaires internes en préfecture, que ce soit à Nantes, à Lille ou en région parisienne, pour demander à la police d'identifier des étrangers en situation régulière ayant commis des troubles à l'ordre public, parfois sur la base uniquement de suspicions, une procédure scandaleuse pour plusieurs députés de la France Insoumise et pour quatre organisations de défense des droits de l'homme qui pointent une forme de fichage, notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis. Les quatre associations qui ont d'ailleurs posé une requête devant le tribunal administratif de Montreuil. Jules Frémaux.
C'est une des mises en application de la circulaire Retailleau, une procédure de signalement qui ne concerne pas des étrangers condamnés par la justice, mais de simples suspects mis en garde à vue. C'est ce qu'explique Nathalie Théot, présidente de la Ligue des droits de l'homme.
Sur un simple soupçon qui n'a absolument débouché sur rien, ce qui veut dire qu'on n'a pas considéré qu'il y avait une infraction, il y a un risque de non-renouvellement du titre de séjour de personnes qui sont parfaitement insérées dans la société sur le simple motif de suspicion d'une infraction. Ce qui encourage aussi toutes les dérives, hein, c'est-à-dire de policiers qui pourraient cibler de façon parfaitement raciale parce qu'elles sont encouragées dans la mesure où ça a un débouché procédural.
Selon la LDH, ces signalements remettent en cause le secret de l'instruction et la présomption d'innocence. Au-delà de cette seule procédure, la LDH s'inquiète d'un climat de dérive xénophobe.
Depuis la loi Darmanin, on voit bien qu'on dérive vers une stigmatisation des étrangers, c'est parfaitement xénophobe. On voit qu'il y a une criminalisation des étrangers qui est directement issue de l'extrême droite, qui a un projet de faire que la société soit scindée par rapport à la couleur de la peau. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Le préfet de Seine-Saint-Denis dément tout fichage des étrangers. Néanmoins, la LDH a déjà introduit une procédure similaire en Loire-Atlantique et obtenu un jugement favorable.
Explication signée Jules Frémaux.
On termine ce journal à Abidjan. Martin, Abidjan décidément en fait.
Pour le FEMUA qui bat son plein et qui déménage aujourd'hui à Daloa, la quatrième ville du pays. Le festival des musiques urbaines qui laisse sa place à des rythmes bien plus traditionnels ce dimanche. Ceux des tambours de Pakinou, notamment en Pays-Bas Ououlé ou à les tambours de Pakinamoué. Pour les communautés Hatchan qui profitent de cette fête chrétienne pour mettre à l'honneur leur culture, notamment dans le village de Kouté, dans la commune de Yopougon. Pakinamoué, cela veut dire Pâques sous les bananiers, à l'ombre des bananiers. Reportage d'Abdouzlaziz Bialou.
Le corps recouvert de poudre blanche, vêtu de feuilles de palmier, sabre en main et petit miroir accroché à la taille, Yaba Hans entre en scène. Le jeune homme de 16 ans s'élance au rythme des percussions et du tambour parleur sacré des Hatchan. Il participe au concours de danse guerrière.
C'est en regardant les anciens que nous avons pu apprendre cette danse-là. Nous sommes encore enfants, nous ne connaissons rien de la culture. Mais lorsque nous apprenons cette danse-là, nous formons des catégories. Nos aînés nous montrent ce qu'ils ont fait dans le passé jusqu'à ce que nous aussi on vienne au pouvoir d'aimer.
Chaque pas est un geste. À travers le festival Pakinamoué, ce peuple enraciné autour de la lagune d'Abidjan veut faire revivre ses traditions. Docteur Aloya Mobio, commissaire général de l'événement, nous explique.
L'urbanisation galopante est venue engloutir les villages Hatchan. Pour maintenir cette tradition, il faut qu'on fasse venir nos enfants, nos jeunes frères, on leur présente la tradition, on leur transmet pour ne pas qu'ils la perdent.
Pas d'école pour cela, rappelle Apiti Apiti Clément, chef du village de Kouté, soutien du festival depuis 5 éditions.
C'est un support pour nous, pour pérenniser notre culture. Si nous ne prenons garde, nos enfants vont laisser ces valeurs pour d'autres valeurs.
Dans le village de Kouté, Pâques ne célèbre pas seulement la résurrection du Christ, mais aussi celle d'une identité culturelle bien vivante. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Et c'est à Babi pour Pakinamoué que se referme ce journal, un dimanche de Pâques qui se poursuit avec Marion Cazeneuve.
Merci Martin Gaze et vous revenez pour le journal de 7h, temps universel. RFI Matin, nous sommes ensemble pour 3 heures d'information avec nos reportages et nos chroniques. On revient largement ce matin sur ces manifestations massives aux États-Unis. Des milliers de personnes ont protesté hier contre l'administration Trump, notamment contre sa politique anti-immigration.
On se dirige vers un régime autoritaire. Les gens sont enlevés dans la rue. Leurs droits sont niés. Les procédures ne sont pas respectées. Les universités sont attaquées. Des gens qui sont ici légalement sont expulsés. Je me sens le devoir de faire quelque chose pour mon pays.
do something for the country.
Un reportage au Texas que l'on écoutera dans le journal de 6h, temps universel. La Russie annonce une trêve dans sa guerre contre l'Ukraine. À l'occasion de Pâques, un cessez-le-feu non respecté. Le président ukrainien signalait hier des assauts et des tirs d'artillerie russe. Pâques célébrée donc à travers le monde par les juifs et les chrétiens. On y revient largement aussi dans nos journaux, également dans le tour du monde des correspondants. La tradition veut aussi que l'on mange, parfois sans modération, du chocolat. En Éthiopie, on prépare plutôt le gulban.
On met juste de l'eau, du blé et des pois. On ne rajoute aucune épice. Ma grand-mère et mon arrière-grand-mère le préparaient déjà comme ça. On le mange ensuite l'après-midi quand c'est froid.
Un plat volontairement très simple pour rappeler le dénuement de Jésus-Christ. On y revient dans le reportage Afrique. RFI Matin, vous avez le programme. Que vous nous écoutiez sur votre poste radio, sur l'application ou encore sur notre chaîne YouTube. Bon réveil en notre compagnie. La guerre commerciale de Donald Trump continue d'inquiéter les marchés mondiaux et de nombreux secteurs comme celui de l'automobile. Les voitures importées sont taxées de 25% et cela tombe au pire moment pour l'allemand Volkswagen, déjà en difficulté. Il va réduire ses effectifs de 35 000 personnes d'ici 2030 pour ses 10 marques. Pascal Thibault s'est rendu au siège de Volkswagen à Wolfsburg, ville du nord entre Berlin et Hanovre. Reportage.
À l'arrivée à la gare de Wolfsburg, la vue est imprenable sur le gigantesque site de Volkswagen, l'équivalent de 650 stades de foot. De l'autre côté, la ville avec son charme d'après-guerre, très discret. En cette journée printanière, de nombreux retraités prennent le soleil sur des bancs de la zone piétonnière. Ils ne sont pas menacés par les droits de douane, mais concernés. Volkswagen fait partie de leur ADN, comme pour cet Italien d'origine, Nicola Motta, qui a fait toute sa carrière dans l'entreprise.
Volkswagen, c'est tout pour moi. Regardez le dos de mon téléphone. Là, c'est mon village en Calabre et en dessous, l'usine de Wolfsburg.
Le retraité est fier de ses deux fils, tous les deux ingénieurs chez Volkswagen à Wolfsburg et en Chine, mais également inquiet pour eux.
Si ça va mal pour Volkswagen, ça nous concerne aussi. On s'inquiète avec ce président américain. Nous n'avons pas confiance en lui. Le matin, il dit blanc, à midi, noir et le soir, autre chose.
L'ingénieur Thorsten Bleibaum travaille depuis 30 ans chez Volkswagen. Pour lui, la crise sociale de l'automne dernier était bien plus grave que les droits de douane américains d'aujourd'hui.
Je ne peux pas confirmer dans mon entourage le pessimisme ambiant dans les médias actuellement, même s'il peut être justifié. Pour beaucoup, ces droits de douane, c'est beaucoup trop abstrait. Je ne crois pas que cela soit si dramatique.
Au café Pinocchio, Silvestro Gurrieri sirote un espresso. Ce Sicilien est arrivé dans les années 70 à Wolfsburg, où il a fait toute sa carrière. Membre du Parti social-démocrate et du puissant syndicat IG Metall, Volkswagen est sa deuxième famille.
Ces droits des douanes de Trump sont une catastrophe totale. Ça nous frappe fortement et on s'inquiète. Volkswagen a surmonté la crise de l'an dernier et maintenant, ces problèmes surgissent sur lesquels nous avons peu d'influence.
Alexander Jordan est le nouveau député de la circonscription. Ce chrétien démocrate a fait carrière chez un sous-traitant de l'industrie automobile et connaît bien le secteur.
Les inquiétudes sont palpables, même si la situation reste calme. Il n'y a pas de conséquences directes pour l'instant après l'introduction de ces droits de douane, mais elles se profilent à l'horizon.
Les droits de douane de 25% en vigueur depuis le début du mois pour les voitures exportées aux États-Unis s'appliqueront en mai à 150 produits fabriqués par les sous-traitants du secteur automobile. Pascal Thibault, Wolfsburg RFI.
Le reportage international à retrouver sur notre application Pure Radio ou notre site rfi.fr.
RFI, toute l'actualité, Marion Kazanov.
7h18 à Paris, à la une de l'actualité en ce dimanche 20 avril. L'Ukraine accuse la Russie de violer le cessez-le-feu. Moscou avait annoncé hier, à l'occasion des fêtes de Pâques, mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signalé des assauts et des tirs d'artillerie russes. Une alerte anti-aérienne a aussi retenti à Kiev. Résistons à la tyrannie, un slogan crié hier aux États-Unis dans des manifestations contre le président Donald Trump. Des milliers de personnes ont défilé dans plusieurs villes. Ils ont protesté surtout contre sa politique anti-immigration. Washington qui se félicite de progrès avec Téhéran sur le dossier du nucléaire iranien. Deuxième session de discussion hier à Rome. Une troisième est prévue la semaine prochaine à Oman. Médiateur dans ce dossier. Et puis les catholiques du monde entier espèrent apercevoir le pape En ce jour de Pâques, très affaibli ces dernières semaines, le souverain pontife pourrait faire une apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre pour donner la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi.
RFI à Paris, 89 FM.
La chronique politique avec vous, Charlotte Urien-Thomaca. Bonjour Charlotte.
Bonjour Marion.
Prendre l'opinion à témoin, c'était l'objectif du Premier ministre en réunissant mardi le nouveau comité d'alerte sur le budget. Une appellation censée incarner l'urgence du moment et la hauteur vertigineuse du mur de la dette, plus de 3300 milliards d'euros. Le Premier ministre François Bayrou tente donc d'insuffler cette petite musique catastrophiste en amont du budget qui arrivera à la rentrée, Charlotte.
Oui, un lexique alarmiste, montagne de difficultés, situation intenable. Une chose est sûre, le Premier ministre a voulu capter l'attention d'une opinion publique à son égard. Je le cite, « Rien ne serait possible sans le soutien des Français et leur soutien ne viendra que de leur pleine information », explique-t-il. Prendre l'opinion publique à témoin permettra-t-il de trouver un consensus politique pour faire voter le budget ? Rien n'est moins sûr. Si le Premier ministre a rappelé un contexte que les Français connaissent déjà, il n'a proposé aucun diagnostic. Épreuve qu'un accord politique sur ce futur budget est encore bien lointain, les oppositions sont restées campées sur leur position.
Et pour plancher sur le budget, François Bayrou et son gouvernement veulent mettre en œuvre une autre méthode, celle du budget base zéro où toutes les dépenses sont annulées, concept utilisé aux États-Unis notamment.
Oui, après le ministre de l'économie Éric Lombard qui a prévenu qu'il fallait faire un effort supplémentaire de 40 milliards d'euros, tous les moyens sont bons pour trouver des solutions. Le budget base zéro, c'est donc une méthode qui diffère des approches budgétaires traditionnelles. Chaque dépense doit être justifiée. Cette fois-ci, pas d'élaboration du projet de loi de finances en partant de celui de l'année précédente. On part d'une feuille blanche pour chaque ministère. Utilisée notamment aux États-Unis par Elon Musk, les proches du Premier ministre expliquent que dans le cas présent, cela n'a rien à voir.
D'autant plus que depuis quelques jours, Charlotte, les menaces de censure venues des oppositions se font de plus en plus pressantes.
Oui, comme chaque année, les premières discussions sur le budget réveillent les envies de censure. L'épée de Damoclès pourrait donc rester accrochée plusieurs mois au-dessus de la tête du Premier ministre. Car le RN, les Insoumis ainsi que les Socialistes ont déclaré cette semaine être prêts à voter une motion de censure sur le budget cet automne. Pas question pour eux de demander aux Français de se serrer la ceinture. À noter néanmoins qu'étant donné leurs actualités respectives, la censure peut s'éloigner. Congrès du PS pour désigner le successeur d'Olivier Faure, duel entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau chez LR, condamnation de Marine Le Pen pour laquelle désormais toute censure du gouvernement fera automatiquement peser un risque sur la chef de file des députés RN. Seule la France Insoumise pourrait mettre rapidement sa menace à exécution, mais sans aucun danger pour François Bayrou.
La chronique politique signée Charlotte Urien-Thomaca. Le livre international, aujourd'hui sur la pensée écologique en Inde. Si le pays est accusé régulièrement d'être un mauvais élève en la matière, à cause de sa pollution par exemple, sa civilisation est depuis des siècles, des millénaires, même connectée à la nature avec un lien très puissant. C'est ce que démontre en tout cas l'essayiste Annie Montaud dans son livre « 3000 ans d'écologie indienne ». Elle répond aux questions de Tirthankar Chanda pour le livre international.
Bonjour Annie Montaud.
Bonjour Tirthankar Chanda.
Comment est née l'idée de ce livre ?
Alors l'idée, elle est née il y a très longtemps. C'était pas l'idée d'un livre, c'était d'abord un intérêt qui a été suscité, je dirais, dès mon arrivée en Inde, où j'ai travaillé entre 1981 et 87. Il se trouve que j'ai été collègue de Maya Jani, qui était la secrétaire d'une association qui s'appelait Navdanya. C'est l'association de Vandana Shiva pour la protection des graines, le vivant. Mais l'écologie tout court, ça faudrait que j'aille puiser dans mon archéologie personnelle, familiale en particulier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de militance dans ce livre aussi. Mais l'envie aussi de faire découvrir ce qui se passait en Inde dans ce domaine à un public non spécialisé.
Annie Montaud, vous convoquez la philosophie, la littérature, les arts de l'Inde antique pour montrer que la conscience écologique existait en Inde depuis ses débuts. Mais vous dites aussi qu'il n'y avait pas de mot autrefois pour désigner environnement ou écologie. C'est plutôt paradoxal, non ?
Non, si vous y réfléchissez, le mot écologie est moderne. Le mot environnement, au sens qu'il a aujourd'hui, c'est aussi un néologisme. Donc je pense que dans aucune culture traditionnelle, qu'elle soit orientale ou occidentale, il n'y avait pas de mots pour dire ce qu'on appelle la discipline écologique environnementale. Il y a aussi des mots hindis, des mots savants là, que personne dans la rue n'emploie, mais qui sont des calques du mot environnement. Paristhiti, c'est-à-dire la situation qui est autour et dont on est extérieur. à l'écart. Alors que, bien entendu, la vision qui est particulièrement illustrée en Inde, on n'est pas à l'extérieur de quelque chose qui nous environnerait, on fait partie de la nature. Ça, l'Occident a une opposition qui millénaire, bimillénaire, entre nature et culture. En Inde, ça se passe pas du tout comme ça. Le mot pour nature, c'est prakriti, et le mot pour culture, c'est sanskriti. Moi, j'ai trouvé extrêmement intéressant que nature et culture soient les deux faces d'un même agir.
Autrement dit, dans la pensée indienne, nature et culture sont interconnectées.
Nature-culture, en Inde, les deux termes se posent en partenariat. Ensuite, l'interconnexion, ça veut aussi dire que tout le monde procède matériellement des mêmes éléments fondamentaux. Alors, il y a les terres, l'air, le feu, l'eau, la terre, et puis c'est tout. Et tout est issu de ça. Il faut les entendre à un sens aussi bien matériel, le feu qui brûle, les rivières qui coulent, les océans, et la terre matérielle, que au sens qu'ils ont en tant que principe abstrait qui organise le cosmos. Et l'être humain, il est formé des mêmes cinq éléments. L'être végétal, pareil. L'être animal, pareil. Tout le monde est formé de ces cinq éléments qu'on ne peut pas dissocier l'être humain du milieu végétal, aquatique et aérien dont il fait partie.
Enfin, diriez-vous que cette vision plurimillénaire continue de nourrir la pensée écologique indienne d'aujourd'hui?
Il y a plusieurs écologies en Inde. Moi, il n'y en a qu'une qui m'a intéressée. C'est celle qui a donné lieu au grand mouvement populaire et c'est celle qui a beaucoup contribué à faire connaître l'écologie indienne et en particulier Vandana Shiva, à qui j'emprunte cette notion que la pensée indienne est fondamentalement écologique par sa philosophie de l'interconnexion généralisée. La dégradation de la pensée comme surtout des pratiques écologiques, elle a commencé certes dans la colonisation et ça a été très documenté par une école qui s'appelle l'école des subalternistes. Ils ont magnifiquement mis en lumière cette espèce de schizophrénie entre des modes de pensée traditionnels et des modes de pensée occidentaux. La colonisation a été une entreprise de prédation, mais rien de commun avec ce qui s'est passé dès l'indépendance. Ça a été quand même le pas décisif pour modifier le rapport à la nature. On a là un pays qui n'a plus rien à voir avec son écologie traditionnelle et qui joue à fond le jeu du modèle développementaliste.
Tirthankar Chanda avec l'essayiste Annie Monteau pour son livre 3000 ans d'écologie indienne publié aux éditions du Seuil.
RFI Matin.
Et chaque dimanche, nous vous proposons d'écouter un extrait de l'émission L'Atelier des médias. L'invité d'aujourd'hui est Maud Benakcha, journaliste au quotidien français Libération. Elle coordonne l'organisation d'événements dont le Climat Libé Tour, une sorte de festival itinérant consacré aux enjeux climatiques et de biodiversité. Avec cette démarche, elle va ainsi à la rencontre notamment des plus jeunes qui souvent ne s'informent pas ou n'ont pas confiance dans les médias. Maud Benakcha est avec Steven Jambou.
Je fais plein d'ateliers de médiation auprès des jeunes à travers les différents événements que j'organise et je passe beaucoup de temps à écouter ce qu'ils ont à me dire. Déjà à sentir la défiance qu'ils ont en faire le journalisme ou simplement un désintérêt. Et donc à partir de ça, je construis mes événements. J'entends quand on me dit qu'il y a une mauvaise représentation des personnes qui sont dans leur entourage, des personnes racisées, des personnes qui se sentent pas légitimes à parler et notamment d'écologie alors que même que ça touche tout le monde. Et je vais réfléchir au format et pas me dire « Ok, je suis journaliste, donc moi, mon sujet, c'est d'interviewer des personnes de manière très formelle et très carrée autour d'une table et c'est tout. » Et je vais essayer de trouver d'autres choses.
L'écologie est d'une certaine façon presque un prétexte parce que c'est un sujet qui les englobe tous, en fait.
Oui, exactement. C'est complètement ça. C'est de comprendre que l'écologie, ça ne va pas se centrer uniquement sur le fait d'interviewer des scientifiques. C'est nécessaire, c'est primordial. on le fait, mais par contre, ça s'arrête pas là. On va aller chercher des personnes qui vont pouvoir nous parler d'écologie via l'art, via les entreprises, essayer d'avoir tous les partis politiques, ce qui est pas simple, et de pouvoir mettre en fait le maximum de personnes autour de la table. Ce que je trouve assez bien, c'est qu'en fait, on peut tester des choses. Comme on bouge, et ben en fait, on peut s'amuser à croiser des gens qui se rencontrent pas forcément habituellement dans les studios de radio, de télé, et de leur dire, ok, je pense que vous avez des choses en commun, et on va vous faire rencontrer. Ça, c'est assez fou.
La journaliste Maud Benakcha que l'on retrouve avec Steven Jambeau à 11h10, temps universel, sur RFI, dans l'atelier des médias. 5h29 en temps universel. À suivre l'actualité africaine, on verra comment réagit la classe politique en RDC après la visite de l'ancien président Joseph Kabila à Goma, dans le Nord Kivu.
L'art de raconter le monde, Jean-François Cadet.
Il y a 50 ans commençait le génocide cambodgien. Dans son documentaire Tour d'exil, la réalisatrice Jenny Tang fait entendre les souvenirs de 4 témoins de la diaspora, ceux qui ont fait des tours du 13e arrondissement de Paris, leur nouveau chez eux. Le film est projeté mardi prochain au Forum des Images à Paris.
L'art de raconter le monde avec Jean-François Cadet, tout à l'heure à 18h41 sur RFI.